Chapitre 6. Eh bien vrai alors, il n'est que temps, se dit Causal après avoir pris connaissance du petit bleu de Frédéric Amiette qui le conviait à dîner pour le soir. Sans aucune cérémonie, un pantalon de treillis et canot comme vous disiez au dragon. Depuis la fâcheuse aventure, il était sans nouvelles de Marthe, encore que le grand hall des postes eût vu plus souvent qu'à son tour errer sa silhouette plaintive, et que les employés agacés se fussent mis sur le pied de lui crier « Y'a rien !» avant qu'il eût ouvert la bouche, au seul aperçu dans l'encadrement du guichet, de son visage tourné peu à peu au cauchemar. Toute la journée, il fut inquiet, nerveux, incapable du moindre travail, se donnant à soi-même en imagination la représentation du drame de tout à l'heure, avec des demandes supposées, des répliques triomphantes, qui avaient pour effet de renverser les rôles en donnant tort à la justice et en mettant le droit à se plaindre du côté que ce n'était pas vrai. Enfin, 6 heures sonnant à l'horloge de campagne qui battait la mesure aux secondes dans un coin de sa chambre à coucher, il jugea le moment venu de se présenter chez ses hôtes et il s'achemina vers la rue Têtebout où le ménage Amiet occupait un appartement de 4 000 francs, dont le balcon, rehaussé de dorures, dominait les platanes du boulevard Haussmann. À son coup de sonnette, un domestique apparut, homme aux yeux de jarre écarquillés, dans une pleine lune de Saint-Doux. « Monsieur Amiet, oui, c'est ici. » Il entra. Le cabinet de Frédéric Amiet, achevé dans des verdures de serre que baignait d'une lumière blanche la soie d'un store descendu, proclamait le goût infini de l'homme qu'il avait disposé. Causal, entrant, subit cette impression de bien-être que dégagent en fraîche pénombre, en discrètes intimités, les milieux faits pour le travail. Il trouva son nouvel ami en conférence avec un gros petit monsieur écarlate qui, visiblement résolu à repousser toute explication, s'enfermait dans une, comme dans une tour dans ce simple mot « Mon argent !» En vain, avec le plus grand calme, « Mais dites-vous donc, vous êtes ridicule, mon cher !» affirmait Frédéric Amiet. « Mais mon argent, je veux mon argent !» répétait cet homme obstiné. Nous pensons que ce plaisant poussa était entré en coup de vent, n'ayant quitté ni son pépin qu'il agitait de haut en bas dans une allée venue ininterrompue de marteaux-pilons au labeur, ni son paletot à boutons de corozo plus large que des coquilles d'huîtres, ni son chapeau un peu trop vaste qui lui ramenait sur les sourcils de 20 secondes en 20 secondes avec une opiniâtreté douce et exaspérante une coiffe oléagineuse. Et il s'indignait, il disait « Mais voilà la troisième fois que vous me fourrez dedans avec vos idées mirifiques et vos comptes à dormir debout. Vous comprenez que j'en ai assez. Oui ou non, voulez-vous me rembourser mon argent? Faut-il que j'aille chercher les gendarmes ?» « Mais vous chantez toujours le même air !» déclara tranquillement Amiet, qui répondait d'une silencieuse pression de main au bonjour intimité de Causal. « Ne dis donc pas de sottises, Gutlicht !»« Je dis que vous m'avez trompé !» reprit violemment celui-ci. « Je dis que vous avez manqué à vos promesses, et qu'après m'avoir embobiné dans des commandites d'entreprise, vous les avez lâchés les unes après les autres, en me laissant derrière par des terres, et que ça, entendez-vous, c'est le procédé d'une canaille. » Le mot ne passa pas tout seul. Amiet rejamba de la belle manière. Il dit que ça n'allait pas traîner, qu'il allait empoigner Gutlicht par la boucle de son pantalon et l'envoyer dans l'escalier y apprendre les belles manières. Sur quoi Gutlicht, la canne haute, déclara « Oh, je vous casse la figure si vous portez la main sur moi !» de fâcheuses extrémités devinrent à craindre. Le commandite aux yeux d'hyène et le commanditaire aux yeux d'ours s'étaient avancés l'un sur l'autre. Ventre à terre, ils s'agonisaient, égosillés dans l'émission des vérités que chacun d'eux lançait à la figure de l'autre. « Propre à rien, espèce d'imbécile, avec vos idées à la manque, je vous dis que vous êtes ridicule. Bon, pour monter le coup aux gens, et sorti de là, va-t'en voir s'ils viennent. Voulez-vous ma façon de penser ? Bon, souci comme d'une pelure de pêche. Eh bien, vous l'aurez tout de même. Vous n'avez jamais fait que des bêtises, voilà. » À cette attaque, « Que des bêtises !» fit Amalay, secoué d'un bond sur place. « Ah, par exemple, celle-là, elle est raide. Et vous pouvez parler des autres, vous qui, depuis votre majorité, n'avez pas manqué une seule fois l'occasion de perdre votre argent dans des affaires sottes ou véreuses, de patronner des gredins ou des niais. » C'était la vérité toute nue. Cet extraordinaire Gutelicht, chez lequel s'alliait l'assoiffement sémite du trafic à un sens tout particulier du raté et de la non-valeur, présentait à l'observation du psychologue l'image d'un monsieur qui joindrait la passion du jeu de tonneau à l'art de toujours mettre à côté de la grenouille. Né et grandi à même les lingots paternels, il marchait vers la noire purée d'un pas tranquille et sûr de soi, par un chemin que bordait, main tendue, une double haie d'escrocs, de faiseurs, de rêveurs. Et de sa dextre, balancée avec grâce de tribord à bâbord et réciproquement, les commandités s'envolaient, telles les têtes au tir du Hugo, du sabre du sultan Mourad. Depuis quelque chose comme 20 ans, pas une maison écroulée dont il n'eût contribué à cimenter les pierres, pas un banquier qui eût levé le pied sans lui emporter quelques plumes. « Oh, cherchez pas à comprendre, Causal !» cria Mien d'une voix de battleur lancée dans l'exposé des curiosités contenues à l'intérieur de son établissement. Nous sommes ici en plein mystère psychologique, et vous perdriez votre temps à vouloir trouver votre route dans les ténèbres de cette âme plus enchevêtrée et obscure à toi seul que le labyrinthe lui-même et les catacombes de Rome réunies. Soumise à la distillation, il serait intéressant de voir quel cryptostome elle laisserait au fond de la cornue. Dans quelle proportion en serait la soif du gain à la mourinée de la chimère, des vains mirages, des trompeuses apparences, et en principe de tout ce qui est illusion, planches pourries et bâtons flottants. Ecce homo, voilà l'homme, cher ami. Oh, il ira loin de ce train-là, si le petit cochon ne le mange pas. Et je vous le disais bien l'autre jour que l'imbécilité des hommes est amusante à voir de près. Et tout en parlant, il avait tourné de la main la clé d'une lampe électrique dressée parmi le champ de bataille qu'évoquait le pillage de sa table de travail, et la clarté qu'en suèrent aussitôt les fanfreluches de l'abat-jour nuança d'un rose délicat le visage de l'orateur, la large gaieté épanouie sur les lèvres de ce philosophe. En même temps, apparut la face de Gutelicht aux lèvres en vain agitées sur une riposte qu'il ne venait pas. « Le petit cochon, le petit cochon !» répétait-il. Il ne sortait pas de ces trois mots qu'il pressentait pouvoir servir de thème à une apostrophe sanglante. Malheureusement, Dindon, qui voit bien quelque chose, mais ne sait trop pour quelle cause, il ne distingue pas très bien, il s'en tenait à ces vagues prémices avec une obstination désespérée. Cependant qu'Amiette, agacée, l'achevait d'un rire de ses « Quoi, voulez-vous en venir avec vos petits cochons? Voulez-vous un démêloir ?» Il finit par n'insister plus. « C'est bon, cria-t-il, je me comprends. » Et il se comprenait si bien qu'il le prouva sans plus tarder, en se lançant toute voile dehors, dans une imitation grotesque et admirable de Frédéric Hamlet en Mal d'invention. Lâché au hasard de ses pas par les diagonales de la pièce, les yeux en boule de crottin et la bouche en boîte aux lettres, il agitait son chapeau au-dessus de la calvitie, saluant ainsi au passage d'un geste de bourgeois cocardier qui acclame les Saint-Cyriens à la revue du 14 juillet, la plus extraordinaire une mémuration d'ânerie, de sottise, d'extravagance qu'ont que suggérait la rancune à l'imagination d'une grosse bête dupée. « Étonnant ! Criait-il sublime ! J'achète toute la rue de Rivoli, j'en démolis les maisons que je reconstruis la tête en bas. Quelle plus-value pour les mansardes ! Je les louerai 6 000 francs par an comme un liard, total 30 millions de bénéfices, au moins. » Ou « Oh, grandiose, magnifique, superbe, la plus grande pensée du siècle. J'achète tous les chemins de fer du globe, je supprime les roues des wagons, je les remplace par la vitesse acquise et je les revends au marché aux puces, à raison de 3 sous la livre. Bénéfice, 80 millions que je mets dans ma poche du jour au lendemain. » Ou encore « Au ciel, quelle idée ! Je monopolise à mon profit tous les alcools belges et hollandais. Je les fais passer à la douane dans des pommes de terre en fer blanc et ni vu ni connu, je t'embrouille. Encore 100 millions pour moi. » C'est ainsi que, tant bien que mal, se payant sur la peau de la bête, il rentrait dans ses débours. Mais en l'outré de la parodie où grimaçait le reflet de son génie déformé, Hamlet se mirait, le sourire aux lèvres, comme dans une boule de jardin. Et quand Gutlicht, d'un inattendu « Ah, oh, mon cher !» lancé au nez de Causal, abasourdi, eut parfait la caricature, l'eut circonscrite en un dernier trait d'une étonnante ressemblance, il n'y tint plus. Il cria que ce circoncis avait certainement juré de le faire mourir de joie, la voix secouée d'un si formidable accès de rire que Causal et Gutlicht lui-même en subirent l'élan contagieux. De cet instant, la question fut tranchée. La dispute, qui tourna comme une mayonnaise, échoua dans un touchant échange d'aménités, Hamlet demandant « Mais à la fin, oui ou non, dînez-vous ici, vieille pratique ?» Et Gutlicht répondant « Oui, je dîne », en faisant sonner son chapeau au marbre de la cheminée. « Mais non, 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 je vais m'en fourrer jusque-là. Quand même je devrais en crever, je rattraperai ma galette. » C'était le dénouement obligé, la conclusion prévue, fatale, où s'achevaient, depuis que le destin les avait jetés sur la même route, les querelles de ces deux fantoches indispensables l'un à l'autre, bien qu'ennemis irréconciliables, et qu'unissaient d'un lien d'étroite parenté leur commune vocation d'hommes venus au monde pour l'étonner du spectacle de leur égale insanité. Marthe, cependant, ne se hâtait point de paraître. « Est-ce que nous n'aurons point le plaisir de voir madame ?» se risqua à demander Causal, que commençait à gagner l'inquiétude. « Ah non, répondit Hamlet, elle n'est pas à Paris. »« Ah, vous êtes veuf ?»« Oui, depuis une semaine et pour quelque temps encore. »« Madame est souffrante. » « Oh, Henriette, une crise de neurasthénie. Ça lui est tombé dessus, sans qu'on sache pourquoi, à propos de rien, tout à coup. Je l'ai envoyé à Cherbourg passer quelques jours chez sa sœur. L'air de la mer lui fera du bien. » Ainsi parla Hamlet, et comme dans la chanson « Qu'est-ce qui fit un nez ?» ce fut Robert Causal. C'était un mâle avec ses airs de demoiselle de magasin. Il n'ignorait rien de son métier, savait l'action d'une énergique pression de doigts sur les révoltes d'une petite main enfin capturée sous la nappe d'un baiser jeté à fleur de cheveux avec un « pardonne ou je me tue » articulé à fleur de lèvres, pendant que le mari, penché cherche sa serviette sous sa chaise. Oui, il excellait, comme pas un, dans le bel art de poser les pièges à amoureuses. La défection imprévue de Marthe, réduisant à néant tout un petit plan de campagne laborieusement combiné, calculé comme une épure et dont il s'était cru en droit d'escompter à l'avance les victorieux effets, lui mit de l'amertume plein l'âme. Il songeait que ces sacrées femmes ne rêvaient qu'à rouler les pauvres diables d'hommes, quand, dans l'encadrement de la porte, parut la pleine lune au sein doux du domestique aux yeux de Jard. « Monsieur est servi. »« Bon, à table !» s'écria Frédéric Amiet, qui chassa doucement devant lui ses deux convives. Sur le seuil d'une salle attenante au salon, et dont occupait le centre une table servie, illuminée en éblouissement de maître-autel, ceux-ci perdirent un temps précieux à se montrer mutuellement le chemin. Nous pourrions même dire « précieux ô combien !» avec les personnes appliquées à parler le français simplement, et aussi avec Amiet, qui ne désespérait pas de faire cracher à Gutlitt, en dépit de ses professions de foi, les petits billets bleus nécessaires à l'impression et au lancement de l'informateur universel, un quotidien d'une très curieuse nouveauté dont la veille même, il avait trouvé la formule en retirant ses chaussettes avant de se mettre au lit. Car un miracle seul, avait empêché que la tête lui éclatât comme un siphon sous la poussée des idées qui n'avaient cessé depuis 8 jours d'y jouer au roi détrôné. Résumons. Un instant conquis au projet d'affermer à son profit le commerce des allumettes et du tabac sur les plateformes des autobus et des tramways, échoué de là dans une ingénieuse application du distributeur automatique à la vente des journaux, ayant pour effet d'épargner à ceux-ci le 33% de l'intermédiaire, puis dans un supposé de combine avec la compagnie des wagons-restaurants pour l'adjonction d'une voiture soupée au train de nuit, progrès dont s'imposait le besoin et que saluerait certainement avec des pleurs de reconnaissance la masse des pauvres voyageurs qu'afflige la fâcheuse insomnie, il était sans transition, tout à coup, à propos de rien, tombé en arrêt devant l'idée d'ouvrir en plein cœur de Paris, boulevard des Italiens ou place de l'Opéra, un café où on ne boirait pas. Un café où on ne boirait pas. Amiet tenait tout entier dans cette conception insensée, mais qui n'aurait pas été de lui si elle eût été, comme toujours, échafaudée sur des données indiscutablement exactes. En fait, atteignant 2 buts, puisqu'elle contenait du même coup la sobriété non douteuse des habitués de café et cet impérieux besoin de flâne qui les porte à acheter sciemment de leur intoxication le plaisir, ceci de jouer le bridge, cela de voir passer le monde, confortablement assis dans la gaieté d'un coup de soleil, philanthropique et pratique en même temps, puisqu'elle sauvegardait à la fois la santé des consommateurs et l'intérêt des limonadiers désormais à l'abri du coulage, ce fléau. Non seulement elle créait un débouché nouveau au commerce parisien, mais encore elle enrayait net, arrêtait du jour au lendemain la marche envahissante de l'alcoolisme et ainsi classait son auteur au rang des bienfaiteurs de l'humanité. Quelle eût valu de gloire à Amiel ! Mais la fatalité veillait. Elle avait voulu que le susdit, au plus chaud de son emballement, entendit soudain, sous son crâne, le sourd grondement indice d'une éruption prochaine. Et dame, ça n'avait pas traîné. Avant seulement, comme dit l'autre, que c'eût été l'âge d'un cochon de lait, le cataclysme s'était déjà produit, laissant Amiet projeté hors de son rêve, avec la brusquerie imprévue d'un bouchon de champagne qui saute, hurlait maintenant d'enthousiasme à l'idée de fonder un journal baptisé d'ores et déjà l'Informateur universel, où le grand dictionnaire de Larousse serait publié en feuilleton. Et telle avait été sa rage d'assouffissement chez cet homme extraordinaire, qui n'avait fait ni une ni deux. Prêt à se coucher, vêtu seulement de son caleçon et de sa chemise, il avait gagné son cabinet de travail, où il était resté une partie de la nuit, à jeter sur des feuilles de papier les arguments d'un prospectus mirifique dont nous devons à notre conscience de reproduire ci-dessous les lignes principales. On y lisait « Où résidera l'originalité de l'informateur universel ? Dans un feuilleton de nature à lui rallier toute la clientèle ou presque des gens qui en France savent lire. En livrant pour un sou par jour une encyclopédie complète aux mains empressées à l'apprendre d'une génération avide de s'instruire, la publication en feuilleton du grand dictionnaire de Larousse répond de façon victorieuse aux exigences de ce difficile mais admirable programme. Suivez le détail. Et désireux d'établir, preuves en main, l'excellence d'une opération dont la réussite ne se discute même pas, résolu par conséquent à tabler sur le minimum de profit d'une entreprise courue d'avance, nous demandons à la théorie exposée ci-dessus 2 lecteurs seulement sur 1000, soit 80 000 acheteurs sur les 40 millions de citoyens qui constituent, d'après les derniers recensements, la population de la France, prétention, on le reconnaîtra, d'une modestie exagérée. Or, 80 000 exemplaires d'une feuille vendue au croissant à raison de 32 francs le 1000 assurent à la société de l'informateur universel un bénéfice annuel net de plus de 400 000 francs. Et nous ne parlons pas ici ni des traités d'annonce, ni des mensualités financières, ni de 1000 autres sources de profit d'un rapport évaluable à 400 autres 1000 francs. Au bas mot, et il concluait, tout ce qui précède n'est rien. L'excellence de l'opération tient tout entière dans ce qui suit. Le grand dictionnaire Larousse, composé de 17 volumes, ne compte pas moins de 30 000 pages établies sur le pied de 450 lignes, soit ensemble 13 millions de lignes, soit encore à raison de 300 lignes par jour, 40 000 et quelques feuilletons, soit par conséquent la vente assurée par A plus B de l'informateur universel pendant plus de 110 années consécutives. Nous penserions faire injure au bon sens de qui nous a lu si nous ajoutions un seul mot à l'éloquence de pareils chiffres. Et allez donc, voilà. C'est sous ces flots de clarté, c'est sous ces torrents d'évidence qu'Amiette comptait anéantir les hésitations bien naturelles des gens à compromettre leur patrimoine dans l'aléa d'un coup risqué, réduire en poudre les résistances beaucoup plus naturelles encore de l'infortuné Gutlis à se laisser rééchauder, la peau encore toute pelée des ébouillantements récents. Tâche colossale, sinon insurmontable, digne dès lors à tous les points de vue de celui qui l'avait entreprise. Hélas, la fatalité devait encore une fois faire des siennes. Il suffit à Robert Causal, questionné sur ses faits et gestes, de confesser dans un timide sourire qu'il avait une pièce sur chantier pour qu'à l'instant même, l'imagination perpétuellement en quête d'horizons inexplorés du terrible Frédéric Amiet s'effara et s'écria « Terre, terre !» Quoi ? S'exclama ce personnage. Vous faites du théâtre et vous ne le dites pas ? Oh, je ne pensais pas que cela pût vous intéresser, répondit un peu étonné l'auteur de Madame Brimborion. Et comme il ajoutait un dédain dans la voix, « Oh, une misérable opérette !»« Ben, vous en parlez à votre aise !» reprit l'autre. « L'opérette n'est pas un mets si dédaignable !»« Pour mon compte, je m'en suis régalé à cette fois. Mon cher, écoutez bien ceci. Il n'est pas de genre inférieur. Il n'est que des productions ratées. Demandez strictement aux choses les qualités qu'elles ont la prétention d'avoir. » Tout le sens critique tient là-dedans. Il dit, et le mot l'enleva comme un tremplin. On vit alors à quel point il est vrai qu'un fou peut n'être pas un sot. Lâché par les dédales d'une théorie farouche qui mettait le moins et le plus sur un pied d'égalité, il déploya à la soutenir des argumentations aussi désespérément absurdes que puissamment convaincantes. Exaltant avec une égale chaleur les splendeurs des burgraves et celles du petit Faust, magnifiant à la fois le cantique des cantiques et le chapeau de paille d'Italie, agitant dans une même salade Ferdinand le Noceur, l'Iliade, le père Goriot, le Cid, Madame Bovary et les pensées d'un emballeur, hurlant Meyerbeer, glorifiant Offenbach, sifflant Zahir, acclamant Champignol, affirmant en un mot la supériorité du bouffon qui divertit sur le tragique qui n'émeut pas. Conclusion dont la témérité n'était déjà pas si bête, bien qu'elle déroutât un peu l'éclectisme pondéré de Causal et découragea complètement l'épaisse jugeote de Gutlicht. Celui-ci, fidèle à son petit programme, se vengeait sur la nourriture et noyait son chagrin dans des flots d'eau rougie, tout en affectant de blaguer. Il bouffait, pouffait, s'étouffait, amenait de temps en temps vers Causal, dont la réserve gardait un mutisme poli, des coups d'œil qui demandaient justice, tandis qu'Amiette filait devant soi à l'emballage. Sa verve en ce nouveau était comme ces grisettes emmenées à la campagne pour la première fois de leur vie et qui ne tarissent pas d'admiration et ne peuvent mettre un pied devant l'autre sans découvrir une fleurette. Un mot amenait un mot. Alors il finit par envisager la question de la crise des théâtres. « Les journaux me font suer, » dit-il en se servant un blanc de poulet, « et l'information aujourd'hui est faite comme par des gâteux. De ceci que les théâtres font de l'argent en matinée et que par contre leurs recettes journalières ont une tendance à baisser au profit des music-halls et des cinématographes, un reporter tire cette conclusion que les Parisiens n'aiment plus le spectacle le soir. Mais c'est imbécile! Si le public, ce qui est exact, demeure fidèle à la matinée du dimanche, c'est qu'il y est contraint et forcé, il ne la préfère pas. Loin de là, il s'en contente, faute de mieux. Il l'accepte comme pis-aller, comme on mange des merles, faute de grives. » Gutlicht pensa comprendre. Ben, « Il est certain, dit-il, que le prix élevé des places... » Mais il dut s'en tenir là. « Eh !» s'exclama Amiette, qui sabra le vide d'un geste impatienté. « Que venez-vous nous chanter là ? Et qu'à avoir là-dedans le prix élevé des places. Le prix élevé des places. En un temps où l'argent, complètement détourné de son vrai but, l'épargne n'est plus qu'un instrument de jouissance immédiate, où les gens vont à Monaco comme on allait autrefois à Chatou, et où les dotes des filles payent les autos des pères, en application par ceux-ci des vieux principes, après moi s'il en reste. Et... tire-toi de là comme tu pourras. Vous me faites rire avec votre charte des places. Une voix s'est-elle élevée, une seule, contre le récent coup d'État, les directeurs de théâtre collant sur le dos du public le 10% de l'assistance. Et n'a-t-il pas accepté, le public, une mesure qui grève cependant son budget dans une proportion importante, avec la même bonne humeur que s'il en eût bénéficié? Si? Alors? C'est d'ailleurs un fait incroyable et manifeste, invraisemblable et établi, qu'on n'eût jamais tant d'argent dans les poches que depuis qu'on le fout par les fenêtres. Ce point acquis, où chercherez-vous l'explication du phénomène, poussant à aller enfermer dans la nuit d'une salle de spectacle des gens qui devraient être avides tant de se dérouiller les jarrets que de se rincer les bronches à l'air pur des campagnes? Voir l'avril venu à sacrifier les bois de Sèvres et les bords fleuris de la Marne à de vulgaires vaudevilles, dont ils pourraient tout aussi bien le soir même au même prix aller applaudir les drôleries? Quel est ce mystère? Car il y en a un. Où est le pourquoi? Car il existe d'un illogisme qui déroute. Le mutisme des deux convives témoignant de leur ignorance. « Eh bien, c'est pourquoi je l'ai trouvé !» annonça Frédéric Amiet. « Il tient tout entier dans ceci, que l'existence s'est modifiée et que les théâtres en sont restés au point où ils en étaient il y a 30 ans, et que depuis 30 ans, sans qu'ils s'en soient aperçus, l'heure du dîner a retardé chaque soir d'une demi-seconde sur la veille, et que de demi-seconde en demi-seconde, Paris en est arrivé à se mettre à table à 8 heures, quand ce n'est pas à 8h30. D'où je conclus que des milliers de citoyens lèvent tous les soirs le couvercle de leur soupière au moment même où les machinistes du gymnase, des variétés et de la Porte-Saint-Martin lèvent les rideaux de leur théâtre. Et vous croyez que ces gens-là iront lâcher les 10 ou 12 francs d'un orchestre pour aller voir une fin de pièce, se repaître de situations qui leur seront incompréhensibles, de dénouements qui resteront pour eux lettre morte, point. Ils iront traîner leur guêtre par l'asphalte des boulevards ou prendre un boc à une terrasse de café, et ils auront bien raison. Et de même les brasses de petits commerçants qui ferment boutique à 9 heures, et les régiments de messieurs qui, pour avoir dîné en ville chez le vieux parent où ils se sont rasés, se trouvent comme des âmes en peine à 9h30 du soir sur le pavé de la capitale. Il y a du vrai dans ce que vous dites là, prononça Robert Cosal, de qui fondait l'hésitation à la conviction ardente flambant aux lèvres de son ami. Du vrai, comment s'il y a du vrai? Je vous dis, avide de convaincre, Amiette éleva vers le ciel sa fourchette rubanée de haricots verts. « Je vous dis que des sommes énormes restent chaque soir dans des poches d'où elles ne demanderaient qu'à sortir, faute d'un théâtre ouvrant ses portes à 10 heures, qui se présente pour les recevoir. » Il goba les haricots, en repiqua au fond de son assiette une nouvelle fourchetée, qu'il rebrandit par les libres espaces. « Je vous dis que l'homme qui fera cela, qui fondera en plein boulevard un théâtre de 10 heures, pratique, confortable, élégant, et où on ne jouera que des pièces gaies, car les heures ont leurs exigences, gagnera 30 à 40 000 francs par mois par la force même des choses, par le seul fait qu'il aura étanché une soif. » Il se grisait à discourir. Ses yeux de dormeur éveillés s'ouvraient sur des apothéoses. Mais depuis un instant déjà, la large masque de Gutlicht reflétait des inquiétudes, grimaçait l'angoisse du monsieur qui, pour s'être fait saler les fesses jadis d'un coup de fusil d'un chasseur maladroit, ne saurait voir sans défaillance une arme chargée dans les mains de son prochain. Et un tremblement de gélatine balbutiait au bord de ses lèvres. Et ses regards ardemment tendus vers l'orateur guettaient l'explosion imminente. Et celle-ci ne s'était pas produite d'un « Et cet homme, ce sera moi !» vociféré par celui-ci dans un ample geste de muezzins appelant du haut de la mosquée les fidèles à la prière, qu'il braillait déjà « pas un sou !» en boutonnant précipitamment son veston sur le contenu menacé de ses goussets. C'est alors que l'adresse d'Amiette rayonna de tout son éclat. Résolu à la conquête des écus récalcitrants, il se refusa seulement à vouloir entendre parler, tout en lâchant chez le camarade cet âpre chien du jardinier qui ne dort jamais que d'un œil en l'âme des spéculateurs. « de l'argent !» cria-t-il. « Mais je m'en moque bien de votre argent. J'en ferai jaillir des pavés avec une idée pareille. Du reste, soyez tranquille. C'est fini de rire, tous les deux. J'aimerais mieux vendre toute ma vie du mouron pour les petits oiseaux que d'entreprendre encore quoi que ce soit avec nous. »« Tiens, » dit Gutlitz surpris, « pourquoi ?» Amiel le fixa dans le blanc de l'œil et répondit « Ben parce que vous portez la guigne, c'est bien simple. » Il sema ce bon grain en bonne terre, après quoi, de l'air le plus doux et le plus innocent du monde, il puisa une pincée de barbe de capucin dans le saladier que lui présentait le valet de chambre, sourd aux protestations du juif qui s'emportait bruyamment, répétait qu'il n'admettait pas une pareille insinuation, qu'on tuait avec de telles légendes le crédit d'un monsieur du jour au lendemain, etc., etc. Toutes déclarations énergiques, derrière lesquelles la peur d'avoir parlé trop vite et raté le coche au passage, ne se voyait guère plus, mon Dieu, que le nez au milieu de la figure. Il finit par menacer d'un procès en diffamation à Amiet, qui, du coup, se rétracta dans l'épouvante bien jouée des juges et présenta même des excuses que cette andouille de Gutlitz accepta sous condition. Maintenant, ce qu'il avait dit, sans doute, exigeant cependant d'examiner l'affaire dans le silence du cabinet, lui premier, lui avant tout autre, au nom du droit qu'il avait, par Dieu, bien acquis de courir après son argent et de se refaire de ses pertes. Chapitre 7. Évidemment, j'aurai de lui ce que je voudrais, dit Amiet à Causal après le départ de Gutlicht, qu'un poker à jour fixe mobilisait une fois la semaine et qui s'était défilé la dernière bouchée dans le bec. Ben, je dis que la vérité. Je ferai suer de l'or à l'asphalte avec ça. Pourquoi riez-vous? Vous ne vous fâcherez pas. Marchez donc. Eh bien, avec votre imagination, que du matin au soir traverse le vol des rêves, vous me faites penser au pont d'Anières, où passent 800 trains par jour. Oh, le pont, non, fit gaiement Amiet. À la rigueur, la gare. Car des trains s'y arrêtent. » Et changeant de ton, « Vous avez tort de blaguer, » reprit-il. « Vous me croyez un écervelé. J'en suis précisément le contraire. En fait, mon imagination n'est ni un pont ni une gare. Elle est comparable plutôt à un grand magasin bien approvisionné, où mon caprice va, vient, erre, flâne. » Tombe en arrêt devant un article qui le tente, l'examine, le remet en place et fixe enfin sur tel ou tel objet son choix mûrement réfléchi. Depuis longtemps, j'ai la hantise d'une direction de théâtre. C'est là un domaine mal connu, par conséquent mal exploité, où il y a à faire bien des choses que je suis prêt à faire avec vous si la combinaison vous plaît. Causal, auquel plaisait plus que nous ne saurions dire une combinaison consistant notamment dans la représentation de sa pièce, s'inclina pour toute réponse. Amiet poursuivit. « En somme, qu'est-ce que c'est au juste votre affaire ?»« Je vous l'ai dit, une opérette. »« Le titre ?»« Madame Brimborion. Oh, charmant! Quelle époque! Louis XV, moins bien. Ah, oui, j'ai sur ce point des idées assez arrêtées que je vous dirai en temps utile. Passons. Trois actes. Trois actes. À achever. Deux seulement sont au point, mais je me ferai fort, le cas échéant, d'enlever le troisième en 8 jours. All right. Et la musique maintenant? Oh, elle est d'un bohème de Montmartre qui me gratifie de son amitié. Un certain Hours Stephen, prix de Rome, déjà joué 2 fois à Paris, sans aucun succès du reste. Et du talent avec ça, comme disait je ne sais plus quel peintre en se regardant dans la glace. Particularité, oh, une vanité de paon, un caractère de dogue, une propreté de goret, plus une petite habille grosse comme 2 liards de beurre et rigolote, comme Chausson, qui a vraiment le diable au corps pour détailler la chansonnette. Leurs amours ne sont guère hélas qu'un pugilat de tous les instants. Vous me mettez l'eau à la bouche, dit Amier. Il faut que je fasse au plus vite la connaissance de ces 2 vertébrés. D'autant que l'été touche à sa fin et que nous n'avons pas 1 minute à perdre si nous tenons à arriver pour l'ouverture de la saison. Le don de sécréter les idées que le ciel lui avait dévolues se doublait de celui d'en voir par la pensée l'immédiate réalisation. Pareillement, ces mères ambitieuses qui voient déjà coiffer du shako bleu de Saint-Cyr la larve informe balancée en leur flanc. Il accueillit avec empressement l'offre à lui faite par Causal de le conduire, puisque l'absence de madame lui rendait momentanément son indépendance de garçon, à la Piborne et où Stéphanour fonctionnait certainement depuis une grande heure déjà. 10 minutes plus tard, une auto découverte, les charriettes aux côtés l'un de l'autre, par la grimpade de la rue des Martyrs. Tous deux, silencieux et rêveurs, Causal, n'osant croire à sa chance, Amiet, baignant au vent de la nuit, son front que cerclait d'une auréole, les bords du chapeau de paille échoué sur sa nuque, et derrière lequel des armées de pensées se battaient confusément avec des régiments de chiffres. Le cabaret de la Piborne était situé au bas de la rue des Trois Frères, dont il trouvait l'ombre la nuit, des feux ardents de ses 2 lanternes écarlates, et dont il insultait le jour la modestie silencieuse et discrète par le cri strident de sa façade badigeonnée en jaune serein. Des étagements de cul de bouteille, verdâtres comme des noyers et renflés comme des pustules, flanquaient étroitement sa porte. Une porte de monastère, où couraient des lacets de ferrure alentour d'un guichet grillé et dominé d'une piborgne au bec d'éternelle bavarde, ouvert en angle de 45 degrés, avec l'air de jeter au quartier « Toi, tu n'auras jamais la paix !» Et le fait est que le quartier avait longtemps désespéré de la voir, exaspéré et impuissant, devant ce nid de turbulente bohème d'où chaque nuit, jusqu'à 2 et 3 heures du matin, s'évaporait en rires énormes, en ululements de peupliers, en tonnerre d'applaudissements, en rythme de valse lointaine, la joie immense des jeunes hommes à être hommes et à être jeunes, sans parler des querelles vidées sur le trottoir et des cœurs bramés à la lune après la pose des volets. De boutiques en boutiques, de paliers en paliers, des pétitions avaient 20 fois passé, des feuilles de papier ministre revêtues d'imposants paraphes, faites pour appeler l'attention des pouvoirs publics sur un état de choses déplorable dont pâtissaient le repos et le sommeil des gens de bien. Il en était résulté une enquête, des visites domiciliaires et le maintien du statu quo. En sorte que les gens de bien allaient prendre leurs clics et leurs claques avec un touchant unisson et transporter leurs pénates sous des cieux plus hospitaliers, Lorsque Our, enfin, était venu, tranchant la question dans le vif et mettant les braillards de la piborne en fuite, à coups de marche funèbre de sonate en mineur. Invité à faire chanter aux touches de son instrument les allégresses du Père la Victoire et du Régiment de Sambre-et-Meuse, le musicien, avec ce sens de la propos qui le signalait de si longue date à l'admiration des foules, n'avait pas hésité une minute à taper dans l'oratorio, et d'homme, ça n'avait pas traité. La clientèle s'était levée et avait pris son vol comme une bande de moineaux. Jamais plus on n'avait entendu parler d'elle. Quel homme! Dans le sous-sol du petit café où désormais il faisait de la musique pour le salpêtre des murailles, ainsi Saint-Jean autrefois se mit en frais d'éloquence pour les sables du désert. Cosal et Amiel surprirent en train de s'expliquer avec la jeune Hélène qu'il traitait de salope et d'ordure pour changer, et qu'il menaçait d'écraser à l'égal d'une simple punaise. Leur apparition imprévue sous le plein cintre de l'escalier ne le détourna pas de la question. Au contraire, il ne s'y enfonça que davantage, les entraînant avec lui l'un et l'autre en les dédales mystérieux de ses rancunes sans qu'ils sussent au juste de quoi il s'agissait. Cosal, seul à certaines allusions visant clairement les sales gadous qui se trottent par la fenêtre quand on les croit aux pieux, devina que la jeune Hélène avait encore fait les siennes. Il resta bouche close toutefois. Il avait promis à Amiet, le réjouissant révélé d'un client pas ordinaire, et à recueillir ainsi le bénéfice des circonstances, il goûtait une joie de provincial, fier de faire à un Parisien les honneurs de sa petite ville. Le malheur fut que cela finit mal. D'un aller-retour de soufflet lancé à toute volée par le vide des espaces, et qui vint retentir comme au flanc d'une potiche au visage soudainement empourpré de la fillette. « Oh !» fit Amiet. « Our !» fit Cosal. « Oh non, ça c'est pas fort !» fit Hélène. En général, tombant sur ses genoux aguerris, les calottes la laissaient froide. Avouons-le, nous ne sommes pas éloignés de penser qu'elle la mettait en belle humeur. Seulement, tout de même, Our, cette fois, avait eu la main un peu lourde. Elle en resta suffoquée, l'air nigaud et gauche d'un enfant qui se retient de pleurer devant le monde, et constatant « Non, je n'ai pas fort », sans se risquer à en dire davantage, crainte que les larmes ne forçassent la consigne à la faveur d'une émotion. Elles vinrent pourtant, oh discrète, deux pareilles, pas plus, car Cosal apitoyé l'avait attiré dans son bras, et consolait d'une caresse le pauvre visage humilié. « Allez là, c'est fini, on ne pleure plus. Faites risette à votre ami. Vraiment, Our, je ne vous comprends pas de frapper ainsi cet enfant. »« Pauvre petite !» murmura Amiet. Mais enchanté de son action d'éclat, « Ha ha !» raillait le goguenard Stéphanour. « T'as pas passé au travers, sale bête, sale volaille !» « Sale vadrouille !» Malin, il clignait de l'œil. Cette brute se jugeait fort plaisante, ayant d'ailleurs, il n'en doutait pas une minute, usé avec une grande réserve du droit que concède le génie de passer outre aux traditions en usage dans le vulgum pecus. Le même qui permit aux uns de tuer Clitus après boire et aux autres de coucher avec leur sœur Pauline. Il était temps que l'entretien changeât. Amiet, sa naturelle douceur révoltée, allait prendre parti dans la discussion, quand, rallié pour avoir la paix aux affirmations du musicien, qui répétait en cela « C'est les chameaux, 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 chameaux !»« Oui, oui, parfaitement, dit Cosal, c'est une affaire entendue. Mais pour Dieu, finissons-en. » Nous avons à parler de choses plus sérieuses. Oh, mon ami, s'il vous plaît. Amiette, mon Dieu, que je vous présente. Et la formalité eut lieu. Stephen Hoor, toujours homme du monde, témoigna de la satisfaction que lui cachait cette mise en rapport. Il ravala bruyamment des crachats. Amiel, lui, salua froidement et commanda les Tarragones, car le patron de la Pied-Borgne venait personnellement et précipitamment prendre les ordres de ces messieurs avec le souriant empressement d'un pauvre homme qui ne désespère pas de repêcher sa maison noyée. Enfin, les petits verres remplis et le patron restitué à sa caisse, Causal put initier son collaborateur au motif de sa visite. « Préparez-vous, bonbon, dit-il à une grande et joyeuse nouvelle. Voici, monsieur, qui veut acheter un théâtre et ouvrir. Devinez avec quoi ? Devinez un peu pour voir. Avec Madame Rimborion. » Il se tut, attendant les faits. Mais l'effet ne se produisit pas. Stephen Hoor n'avait pas bronché. La fortune venant enfin à lui, il l'accueillait sans aucune surprise, simplement dû à... strictement dû aux choses strictement dues. « Eh bien, reprit Causal, un peu décontenancé, ça vous dit rien, cette affaire-là ?
Pas de pas, répondit Stephen Hoor. Faut voir.
Faut voir quoi ? Voir quoi ? Hoor sursauta.
Pensez-vous que je vais confier au premier venu les destinées de ma partition ?
Il dit ma partition, rien de plus, et il sembla à Causal que ces deux mots, pourtant bien simple, prenait dans la bouche de celui qui les avait prononcés on ne sait quelle acception spéciale, évoquait dans l'esprit de celui qui les avait entendus on ne sait quelle idée de colossal, de gigantesque et d'inouï. « Mais, hasarda-t-il,
« oh, je mets de la vie, reprit Stéphane Hoor, pas si bête. Qui veut ma musique la paye. Je fais mes conditions d'abord. »
Et il les fit, ses conditions. Et le projet, à l'instant même, sombra dans l'irréalisable, échoué aux prétentions insensées de l'artiste, qui exigeait froidement une prime de 10 000 francs payable dans les 24 heures, un minimum garanti de 150 représentations, l'insertion dans 20 grands journaux de son portrait, avec biographie détaillée, études critiques, tout le diable et son train, plus bien entendu l'engagement de divers chanteurs et chanteuses qu'il se réservait de désigner. Caruso et Delna, par exemple, fit Amiette. Il avait prononcé ces mots avec le sérieux le mieux joué. Il demeura estomaqué à entendre Hoor déclarer avec la bonne foi la moins feinte que Caruso manquait de fantaisie et que Delna était trop marquée pour le rôle. Pas un instant la supposition d'une raillerie n'eût pu visiter ce cerveau où la folie de l'orgueil trônait aveugle et saoule de toute puissance comme une impératrice d'Orient. Causal avait réfréné un léger mouvement d'impatience.
Et laissons cette question, fit-il, je sais les intentions de mon ami et son désir de bien faire. Donc, sur ce point, aucune difficulté à craindre.
Hoor, à vous d'y mettre du vôtre.
Comment ? Je déniche l'oiseau rare, le directeur de nos rêves, et voilà que vous commencez par lui mettre le pied sur la gorge. Croyez-vous que ce soit raisonnable ? Tenez, si vous étiez gentil, savez-vous ce que vous feriez ?
Il souriait. Le peloteur câlin qu'il savait être appliqua une tape amicale sur l'épaule du compositeur.
Eh bien, vous vous mettriez au piano et vous donneriez à monsieur une idée de votre partition. Il est amateur de musique et
Ce qu'il a ouï dire de la vôtre excite sa curiosité à un point que vous ne sauriez croire. Un aperçu de Madame Boimorion, s'il vous plaît. La gavotte du deuxième acte, par exemple. Ou mieux encore l'ouverture que vous m'avez jouée l'autre soir et qui est un pur délice. Allez, soyez bon. Faites-nous ce plaisir, cher ami. Ours tut. Il avait abaissé sur Amiet ce regard alourdi de dédain qui creuse un fossé et met un monde entre l'artiste et le mufle indigne. Deux ennemis se disputaient son cœur, la religion de sa personnalité surhumaine et ce chatouillement d'amour-propre non sans charme qui fait éclore le sourire sur les lèvres d'une duchesse dont le « Giron de la boum, je me l'enverrai bien !» d'un ramasseur de bouts de cigare a flatté l'oreille au passage. Un instant, il balança. Enfin, pourtant, ayant sous son humble fessier attiré la chaise de cuisine qui formait un bourré de piano, il déposa sur le clavier ses mains qui aussitôt prirent congé l'une de l'autre et filèrent chacune dans un sens, à l'image de deux personnes pressées de se rendre à leurs affaires. Il daignait. Fit Causal. D'un clignement d'œil, il appelait l'attention d'Amiet, lui recommandait de ne rien perdre du spectacle qu'il allait voir. C'était l'accès, en effet. C'était l'accès aigu lui-même au cours duquel l'honneur de la fugue, le narcisse du contrepoint, assouvissait enfin et jusqu'à épuisement sa passion effrénée de soi-même, hennissant, gloussant, jouissant dans l'exaltation démente où l'envisager de son génie avait pour effet de le jeter. Insatiable de s'écouter, plein de rancune contre l'imbécile nature qui ne l'avait pourvu que d'un tympan par oreille, il tenait le piano impuissant à exprimer aussi pleinement qu'il eût été de rigueur le nom pareil de ses inspirations, si bien qu'il se donnait l'ivresse de les vociférer à tue-tête en même temps qu'il les arrachait aux sonorités de l'instrument. Il estimait que ses mélodies détenaient toujours au fond d'elles-mêmes quelques splendeurs insoupçonnées, et il les pressurait comme des citrons pour en faire sortir le jus. Elle lui était ce que sont aux gamins ces chandelles romaines éteintes qu'il sentait à taper au pavé de la rue avec l'espoir d'en voir jaillir tout à coup une dernière boule enflammée. Non content d'en avoir à la fois plein la bouche et plein les mains, il s'obstinait à en rendre la quintessence par des mimiques compliquées, exprimant tour à tour la crainte, la colère, la haine, la joie, la douleur. Au forte, il plissait le front, ses sourcils descendaient lentement sur ses paupières, ainsi au jour des meutes, lentement descendent devant les étalages les lourds rideaux de fer des boutiques. Oh, con animato, son visage s'éclairait, ruisselait en mutinerie de petits écoliers dissipés qui va se faire mettre en retenue. Il se rembrunissait au confurore, arborait les félicités des masques de guerriers japonais, narquoises et inexorables. Mais c'était surtout au dolce, c'était au con amoroso que Stéphanour valait l'argent. Ah ! Il les fallait voir alors, ses yeux d'exhibitionniste chavirés, noyé de volupté. Il les fallait entendre, ses soupirs, des soupirs longs comme des angoisses et profonds comme des tombeaux, où s'évoquait avec un égal bonheur tantôt le tendre émoi de la Vierge au contact du premier baiser, tantôt, en ronquement farouche, les accouplements formidables de ces atorus, diplodocus, triceratops, iguanodon et autres mastodontes, antédiluviens, au fond des cavernes obscures. Très bien, bravo, dit Amiet, tandis que le compositeur achevait d'exhaler sa grande âme dans un trémolo prolongé, secouant ses mains d'une crise de délirium très mince. « Vous aviez raison, Causal, voilà un homme extraordinaire !» Il s'amusait bien un peu, mais pas tant toutefois que le jeune homme l'eût pu croire, car il voyait des atouts dans son jeu à force de les y souhaiter, et à travers la charge énorme que Our dessinait de soi-même, il apercevait le musicien, le personnage de qui la verve pouvait, enfin devait, contribuer dans une proportion à l'heureuse issue de son projet. Et soudain, le souvenir lui revint à l'esprit des talents de la jeune Hélène. Alors, s'étant tourné vers elle, « À propos, mademoiselle, et vous ?»«
Moi ?» questionna Hélène, surprise.
« Oui, vous, la belle étonnée, nous savons aussi de vos histoires. »«
Quelles histoires ?»«
Bon, c'est bon, reprit Amiède. Inutile de vous faire les yeux plus grands que le bon Dieu ne l'a voulu. »«
Grimpez-moi plutôt sur cette table et montrez-nous un peu à quoi vous êtes bonne, que je vois si l'ami Causal n'a pas abusé de ma candeur. »
Il riait. De la main, en même temps, il apaisait Stéphane Our, qui littéralement aboyait aux jupes de sa douce maîtresse, émettait des sons imprécis, d'où il paraissait résulter que cette traînée, pourvue de certains dons naturels, en aurait pu tirer parti, si elle n'avait pas eu que le derrière dans la tête, métaphore dont la hardiesse jeta un délire de joie à la principale intéressée. Celle-ci, au reste, ayant compris ce que l'on désirait d'elle, s'exécuta à l'instant même de la meilleure grâce du monde. Elle prit d'assaut la table désignée, en bon enfant, ennemi des stupides chichis, qui ne demandent qu'à faire plaisir. La façon dont elle dit à Our « En si bémol, Steve, s'il te plaît !» la joue encore zébrée des cinq doigts de ce butor, la révéla si petite fille que Causal et Amiet, émus, échangèrent d'instinct un coup d'œil. Un tyrolien coiffait Causal, elle le lui emprunta, l'aplatit d'une tape, le transforma en un boléro imprévu qu'elle se posa de biais sur l'oreille. Après quoi, la main gauche chassée derrière la jupe et la droite plus haute que la tête, crispée sur d'imaginaires castagnettes, « La Manola » annonça-t-elle. Ah, la chose exquise que ce fut! Elle n'avait pas dit un couplet et Camiel déjà criait au miracle. « Mais c'est inouï, mais c'est fou! Mais où diable avez-vous appris ?»
Où elle avait appris? La belle question. À la grande école communale, où les gars clopins de la rue apprennent à tirer de leurs doigts des coups de sifflet assourdissants, à imiter le chien écrasé, la trompe des pompiers et la chatte amoureuse. Ce fut merveille de l'entendre, préludant au deuxième couplet, faire retenir, entendre à son palais le clair roulement des castagnettes, sonner au vide de sa bouche la peau d'âne du tambour de basque. Holà, 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 voilà la véritable Manola! À la ritournelle, elle dansa, le poing à la hanche, maintenant, le torse écroulé en arrière, tel un arbre qu'a entamé le coup de cognée du bûcheron. À travers la fumée d'une moitié de cigarette cueillie au vol à la lèvre d'Amiet, elle clignait, sur une intention de couleur locale, la double ligne réduite à une seule, de ses cils. « Olé !» Elle dit ensuite avec une telle gentillesse que c'était véritablement à la croquer comme un bonbon le voyage à Robinson et la lettre à la pigeonne. « Et moi, j'ai répondu, je dois rester fidèle, aucun autre pigeon ne saurait me charmer. Si mon ami revient brisé, tirant de l'aile, plus il aura souffert, plus je devrais l'aimer.
mais où elle se montra étonnante tout à fait. Appelée au rendez-vous des plus sûres destinées, ce fut dans la marchande de tout, une ineptie dont elle tira un monde tellement elle apporta d'observation et d'art à en relever la platitude par la drôlerie de son dire, par la netteté surtout d'un geste juste, sobre, extraordinaire de vérité, qui l'affirmait maîtresse mime. Successivement, ayant allongé son épaule du ballot qui était supposé l'écraser, et en ayant défait du bout de ses petites pattes les nœuds qui n'existaient pas, elle y puisa, en marchande de tout qu'elle était, un collier fin dont elle cercla son jeune cou, une bague simulée dont elle para son doigt, un bracelet pas vrai dont elle fit sur son pouls claquer le soi-disant fermoir, puis apparurent deux petits anneaux illusoires qu'elle suspendit de chaque côté de son éclat de rire, l'homme rosé de son oreille, une houppette chimérique, laquelle, secouée par le vide, il laissait censément pleuvoir son trop-plein de poudre de riz, un faux rouge pour les lèvres, qui dessina aux siennes deux frêles arbalètes contrariées, enfin un vaporisateur prodigieusement évoqué, dont elle dirigea vers Amiel le bec qui n'avait pas lieu, en même temps que de sa dextre, elle en pressurait, pétrissait la poire à air, absente et visible à la fois. Et ce fut si joli, si complet, d'un rendu de la vie si exact, Camillet, transporté, n'y tint plus, criant « Hop là !» Oh, les bras tendus à la gamine, qui s'y jeta riante et essoufflée. « Ah, allez !» déclara-t-il, « c'est fait. J'ai hésité encore un peu. À 7 heures, le notaire lui-même y aurait passé, que ça n'y serait pas davantage. Les gaietés modernes sont à vendre. » Leur situation en plein cœur de Paris, à 2 pas du passage Jouvroy, n'est comparable qu'à celle des variétés. Je les achète. J'engage Cobray, qui a résilié hier avec le Palais Royal. J'engage Lucito Alba, qui est charmante dans les rôles à côté. J'engage Vaudru, qui est une ganache impayable. J'engage... Il engagea ainsi tout en imposant dessus du panier. Mais quand il en vint à Hélène, visiblement créée et mise au monde pour incarner la mignonne Madame Brimborion, et à laquelle il proposa 100 francs par représentation, plus un traité de 3 années, Stéphanou rentra dans la danse avec sa grâce coutumière. « Quoi, vous dites, le rôle principal à cette grue? Oh, je mets de la vie !»« Mais pourquoi donc ça ?» Parce qu'il y serait au-dessous de tout d'abord, puis parce que le rôle étant conçu, compris, écrit pour soprano aigu, sera interprété par un soprano aigu ou pas interprété du tout. C'est clair ? Amiet, que depuis son entrée, Our exaspérait sourdement, et qui plus d'une fois s'était mordu au sang pour se contraindre à rester calme, sentit s'évanouir au fond de soi l'espérance d'en pouvoir entendre davantage. Il eut un petit sourire et dit « J'adore qu'on me donne des ordres, cela me met tout de suite à mon aise. Bon, maintenant à moi la parole. Vous venez de déclarer, sur un ton qui ne supporte pas la riposte, que mademoiselle ne chanterait pas votre musique. Oh, c'est précisément le contraire qui arrivera, et c'est votre musique qui ne sera pas chantée, elle, si mademoiselle ne la chante pas. » « Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire que j'ai projeté d'ouvrir un théâtre d'opérette dans l'intention de faire fortune, que j'ai reçu de monsieur une pièce qui me convient, que je professe sur la façon dont mademoiselle en interpréterait l'héroïne une opinion diamétralement opposée à la vôtre, et que, niant à vos exigences le droit qu'elle s'arroge tranquillement de paralyser nos efforts, à mademoiselle, à monsieur et à moi,
Je me passerai de vos mélodies avec calme et sérénité. Si vous me contraigniez à ces moyens extrêmes, et ferez faire la musique de Madame Brémborion par Claude Terrasse ou par Hirschmann, qui ont autant de talent que vous. J'ajoute qu'il est inutile de faire fonctionner vos moustaches comme si on avait monté chacun des poils sur un petit bouton de laidon. Non, non, vous ne risquez, vous ne m'inspirez aucune crainte. Si une seule minute vous avez pu me prendre pour un monsieur auquel on flanque des calottes et qui pousse ensuite une romance en fa dièse, en mi naturel ou en n'importe quel autre ton, vous vous êtes grossièrement mépris. Est-ce aussi suffisamment clair? Vous m'embêtez à la fin. Il y eut un temps. « Bien fait !» fit Hélène à mi-voix. « Attention !» songea Causal. Il se tenait prêt, sentant ces deux hommes enminés et résolus à empêcher coûte que coûte le coup de torchon imminent, le colletage qui était dans l'air. Mais sa surprise fut sans borne. Où, en effet, se transfigurait à sa vue au point de devenir méconnaissable. Les coins de sa bouche amenés comme avec des crocs jusque par-delà les oreilles, ses yeux, oh ses yeux qu'assombrissait la sépia d'une rogne de tous les instants, devenus soudain pareils aux fenêtres d'une pièce où l'on vient d'allumer les lampes, et la boucle de sa ceinture éclatée ainsi qu'un pétard sur le trémoussement délibéré et précipité de ses tripes. « Bah, ça !» me se dit le jeune homme abasourdi. « Il rit ?» Il riait, parfaitement, il riait. Le seul prononcé de deux noms, Claude Terrasse et Hirschmann, avait déterminé ce miracle. À la seule pensée que le talent de ces messieurs pouvait être opposé au sien, ce fou, ce maniaque, ce malade, cet halluciné, ce pauvre homme, pour la première fois de sa vie, goûtait la douceur de rire. Et l'imprévu de ce dénouement entrebâilla sur l'apaisement une porte que se hâta de pousser l'humeur conciliante d'Amiet, sa tendance naturelle à déposer les armes et à triompher sans rudesse, pour peu que l'adversaire eût le bon goût de ne pas y mettre d'entêtement. L'attitude du compositeur lui demeurant inexpliquée, il interpréta aussitôt comme une capitulation, et, vainqueur bon enfant, il promit au vaincu toutes les satisfactions du monde, lui roua à son tour les épaules de tabourus et amicales, disant que la route était belle, qu'il aurait le lendemain matin les capitaux nécessaires à l'exploitation de son théâtre, qu'ils seraient millionnaires tous les quatre, Our, Causal, Hélène et lui, ayant seulement 2 ou 3 ans, et qu'on allait voir un petit peu s'il était ou non le pont d'Asnières.